Je vous invite à écouter la lecture de trois textes. Tout d'abord, dans le Deutéronome, chapitre 16, verset 21, jusqu'au chapitre 17, verset 7. C'est un des textes recommandés ce jour, parce que vous savez qu'il y a des textes qui sont recommandés chaque jour. Et il n'est pas sans rapport avec la prédication qui va venir. Tu ne planteras pour toi aucun poteau de bois à côté de l'autel que tu construiras pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne dresseras pour toi aucune de ces stèles que le Seigneur ton Dieu déteste. Tu ne sacrifieras pas au Seigneur ton Dieu un bœuf ou un mouton ayant une tare quelconque, car c'est une abomination pour le Seigneur ton Dieu. S'il se trouve au milieu de toi, dans l'une des villes que le Seigneur ton Dieu te donne, un homme ou une femme qui fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, aux yeux du Seigneur ton Dieu en transgressant son alliance, et qui s'en va servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, devant le soleil, la lune ou tout autre, ou toute l'armée des cieux, ce que je n'ai pas ordonné. Si l'on te communique cette information, ou si tu l'entends dire, tu feras des recherches approfondies. Une fois vraiment établi le fait que cette abomination a été commise en Israël, tu amèneras aux portes de ta ville l'homme ou la femme qui ont commis ce méfait. L'homme ou la femme, tu les lapideras et ils mourront. C'est sur les déclarations de deux ou trois témoins que celui qui doit mourir sera mis à mort. Il ne sera pas mis à mort sur les déclarations d'un seul témoin. La main des témoins sera la première pour le mettre à mort, puis la main de tout le peuple en fera autant. Tu ôteras le mal du milieu de toi. La Bible, ce n'est pas toujours à prendre littéralement. Puis dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 23, qui est le texte que je vais commenter dans la méditation tout à l'heure. Chapitre 16, 13, 23. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, mourir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort, et le troisième jour ressuscité. Pierre, le tyran à part, se mit à le réprimander en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Lui, se retournant, dit à Pierre « Retire-toi, derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 11, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit, qui donne sa vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible à la loi, car la chair l'avouait à l'impuissance, Dieu l'a fait, à cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condition de notre chair de péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit. En effet, sous l'empire de la chair, on tente à ce qui est charnel. Sous l'empire de l'esprit, on tente à ce qui est spirituel. La chair tente à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. Car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Sous l'empire de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est votre vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Jésus donc demande à ses disciples quelle idée ils se font de lui. Il obtient une réponse, celle de Pierre, qui apparemment est la bonne réponse, puisque Jésus, à ce moment-là, félicite l'apôtre. Ah, c'est le cœur même du christianisme. Hein. Qui est Jésus, ou plutôt, qu'est Jésus ? Le christianisme, ça vient de là. C'est fondé sur cette affirmation que Jésus de Nazareth est le Christ. La réponse de Pierre est claire. Enfin, claire, oui. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la première affirmation, je crois, chronologiquement, de cette certitude dans les évangiles. Si j'étais professeur de français, je crois que j'écrirais dans la marge « développé ». Parce que 2000 ans plus tard, Jésus nous pose toujours à nous individuellement la même question. Elle n'est pas vraiment résolue, la phrase de Pierre est un peu sommaire. Le théologien luthérien Dietrich Bonhoeffer, avant de mourir dans un camp nazi, avait dit « la question n'est pas « qui est le Christ ?» mais plutôt « qui est le Christ pour nous aujourd'hui ?» J'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais à partir de ces versets réfléchir avec vous sur la foi et sur les dogmes. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas bien cette maison, dogme, c'est un gros mot ici. On n'aime pas ça. Mais malheureusement, je crois que nous en avons quand même. Alors d'abord la foi. La foi, je rappelle que la foi, c'est étymologiquement, c'est la confiance en Dieu. Hein. Comme disait Jésus, la foi, ce n'est pas la conviction que Dieu existe, car cette conviction, les démons l'ont aussi. Et eux, ils tremblent. Donc la foi dans ces versets, ce n'est pas vraiment une affirmation, c'est une interrogation, une question qui s'adresse à la subjectivité. Non pas « qui suis-je », mais « qui dites-vous que je suis ?» C'est de l'ordre de l'intime, de l'individuel. Ce n'est pas un dogme. Pour la laïcité, on dit que c'est de l'ordre privé. Pierre, d'ailleurs, ne s'exprime pas ici comme le porte-parole des douze. Visiblement, si vous reprenez le texte, ils ne se sont pas concertés. C'est un cri du cœur spontané de sa part, une épiphanie. Et Jésus de proclamer Simon heureux. C'est le même mot que dans les béatitudes, makarios en grec, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, vous vous souvenez. Bon, la foi s'exprime évidemment de façon individuelle. Chacun la vit à sa façon, à sa propre façon. La prière, la retraite, la participation au culte, l'étude des Écritures, et bien sûr, l'action pour autrui, l'amour du prochain, qui est l'enseignement essentiel de Jésus. Et cette révélation, c'est le texte de la Bible, ne vient pas de la chair et du sang, dit Jésus. Chair et sang, c'est-à-dire l'humain, l'intellect. Elle vient du Père qui est aux cieux. La foi est une grâce. Elle est donnée par Dieu. Elle viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas, chantait Brassens. Au début du passage, les apôtres citent les interprétations populaires. Jésus serait Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou un autre prophète revenu sur terre. Ainsi, ils inscrivent le Nazaréen dans la lignée de la tradition juive. La déclaration de Simon-Pierre crée, à mon sens, une rupture. Tu es le Christ et non pas un prophète. Jésus est aussi un prophète, mais bon, ça nous entraînerait un peu loin. Les Juifs attendaient un Messie, un de plus. Je rappelle que Christ ou Messie, ça désigne loin, loin, celui qui a reçu l'onction. David et les rois qui lui ont succédé étaient loin. Les rois de France aussi. Les grands prêtres étaient loin. Le malentendu entre les Juifs et les chrétiens vient de là. Il ne donne pas le même sens au mot Messie. Le Messie chrétien est unique. Il est pour toute l'humanité, il est définitif. Le Messie juif qu'ils espéraient au 1er siècle devait être, lui, un nouveau David qui allait rendre à Israël sa grandeur. Au début de la semaine sainte, lorsque Jésus rentre dans Jérusalem sur un âne, comme vous vous souvenez, les Juifs ont crié « Salut à toi, Jésus, fils de David !» Ah, c'est une autre conception du Messie. Fils de Dieu, ce n'est pas fils de David. Revenons à notre sujet. Le croyant, évidemment, ne s'affranchit pas, une fois la révélation de la foi accomplie, d'une réflexion théorique. C'est ce que je disais, il faut développer. Il faut bien élaborer une doctrine, des doctrines, au pluriel, c'est-à-dire un ensemble de concepts conduisant à une construction théologique permettant à chacun de préciser la phrase de Simon-Pierre. Et cela, cette doctrine, ces doctrines, c'est le travail de l'Église, des Églises. La phrase de Jésus contient un jeu de mots, en grec comme en français, qui est assez connu, bien entendu, « Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Ça doit s'entendre comme le fait que l'Église émane de la foi, ne la crée pas. La foi est première, l'Église est seconde, puisqu'elle est construite dessus. Les catholiques et les protestants divergent sur l'interprétation de cette promesse de Jésus faite à son apôtre. Pour nos frères catholiques, elle fait de Pierre le grand saint Pierre, le prince des apôtres, le seul qui détiendra les clés du royaume, et donc elle fait de ses successeurs supposés, les évêques de Rome, les papes chefs sacrés de la chrétienté. Ah bah tiens, voilà un dogme, l'infaillibilité pontificale. Pour nous, elle signifie que tous ceux qui, comme Pierre, ont la foi en Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, sont la pierre sur laquelle l'Église sera bâtie. Et nous avons tous les clés du royaume pour nous-mêmes. Quelle responsabilité! Comme disait Bossuet, mais lui le disait dans une perspective évidemment critique, chaque protestant est pape, et pape sa Bible à la main. Donc c'est sur la foi, sur cette grâce, cette révélation intime, enrichie par les doctrines, qu'est construite l'Église. Il arrive que les œuvres humaines échappent à leur Créateur et détournent l'objectif qui est le leur. Et l'Église a élaboré les dogmes. On connaît la suite, les bûchers, les guerres de religion, les conversions forcées à la pointe de l'épée, le terrorisme. C'est pourtant contre quoi Jésus, déjà il y a 2000 ans, dans les versets qui suivent, a mis en garde ses disciples. Ils n'ont pas tous écouté. J'ai regardé dans le Larousse et sur Wikipédia ce que c'est qu'un dogme. Alors je cite, « C'est un point fondamental considéré comme incontournable. Ou bien une opinion donnée comme certaine et imposée comme vérité indiscutable. » En mathématiques, je ne suis pas spécialiste, mais je crois que ça s'appelle un axiome. Quelque chose qui n'est pas utile de démontrer. En droit, je connais un peu mieux, ça s'appelle une présomption irréfragable. Une hypothèse qui n'admet pas la preuve contraire. Le texte du Deutéronome que je vous ai lu, recommandé ce jour, est une illustration opportune de ce qu'est un dogme, la mort pour l'hérétique ou le polythéiste. Là où le bât blesse, c'est que c'est une opinion considérée comme indiscutable. Ce n'est qu'une opinion imposée aux autres. Les dogmes sont nombreux, je ne vais pas les énumérer, il y en a dans toutes les religions. Il n'y en a même pas que dans les religions, d'ailleurs. Dans le Larousse, ils prennent des exemples en matière économique. En économie, il y a des dogmes. Il faut réduire les dépenses publiques. Voilà, ça, c'est un dogme. Revenons aux choses sérieuses et à la nature de Jésus. En 325, le Concile de Nicée a élaboré un dogme, celui de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Le pasteur Marshall, avec qui j'ai fait mon catéchisme ici, disait « La Trinité, c'est l'arithmétique des curés. 1 plus 1 plus 1 égale 1. » Je m'aperçois que je cite le pasteur Marshall à chaque fois que je suis ici. Il faut dire qu'il a occupé cette chaire pendant plus de 20 ans, peut-être même plus, je crois. Alors, pour le Concile de Nicée, il y avait une explication quand même. Il s'agissait de condamner une hérésie. Une hérésie qui s'appelait l'arianisme, du nom du théologien Arius, qui soutenait que Jésus était un homme, un simple homme, avec un peu de divin en lui. Ça a été une guerre de religion terrible, très meurtrier ce combat contre l'arianisme. Bon, je ne vais pas faire de la polémique, mais enfin la Trinité, ça n'apparaît pas dans la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont bien tous trois nommés, mais jamais comme formant une entité unique. Au contraire. Si le Fils est assis à la droite du Père, c'est qu'il n'est pas le Père. Ce pauvre Michel Servet a subi le martyr pour avoir dénoncé le dogme de la Trinité. C'était un Espagnol humaniste contemporain de Calvin, ils sont nés tous les deux en 1509. Il a été condamné au bûcher par l'Inquisition à Vienne, Vienne dans le Dauphiné. Il s'est évadé et il s'est réfugié à Genève, parce qu'il n'avait pas vraiment le choix, mais à Genève, il a été brûlé pour le même crime, la même hérésie, sur des réquisitions de Calvin. Il avait violé un dogme. Un proche de Calvin, qui s'était déjà auparavant fâché avec lui pour d'autres raisons, qui s'appelait Sébastien Castellon, a eu alors ce mot, quand même admirable, en tout cas pour le XVIe siècle, « Tuer un homme, ce n'est pas combattre une idée, c'est tuer un homme. » Castellon a aussi écrit un livre. Je le mentionne en passant parce que le titre de ce livre est tout à fait étonnant. « De l'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir. » Il fallait oser quand même, hein, au XVIe siècle. Il y en a qui ont brûlé pour ça. Revenons à Jésus. Sitôt qu'il a félicité Pierre, il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ. Ben, pourquoi ? Jésus n'a pas vraiment peur de ce qu'il attend, on va le voir. Souvent, en effet, lorsque Jésus guérit un démoniaque, c'est comme ça qu'on dit dans la Bible, c'est-à-dire un malade, il lui enjoint sévèrement de ne rien dire. Évidemment, l'intéressé s'empresse d'aller révéler à tout le monde ce qui est arrivé. La tradition a élaboré, pour expliquer cela, la thèse du secret messianique. Le Messie ne doit être révélé publiquement qu'après la crucifixion et la résurrection. Je pense aussi que Jésus ne voulait pas être enfermé dans une image de guérisseur ou de thaumaturge, ni de l'image du Messie attendue par les Juifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne veut pas non plus être enfermé dans cette définition que j'ai qualifiée de lapidaire, « Christ, fils du Dieu vivant ». Parce que le dogme, évidemment, ça emprisonne les hommes dans leurs idées, dans une vision stricte et fermée. Mais le dogme emprisonne aussi Dieu, dans une formule, dans des mots. Un Dieu, prisonnier d'un dogme, même si le dogme n'est pas représenté sur une statue, un Dieu ainsi prisonnier devient une idole. Paul Tillich, théologien du XXe siècle, disait « Dieu est au-delà de Dieu, au-delà de ce que nous pouvons en dire avec nos pauvres mots humains ». Les versets suivants sont tout aussi célèbres. Jésus annonce sa mort aux mains des anciens, des grands prêtres et des scribes, c'est-à-dire du fait des institutions ecclésiastiques de son temps. Il a violé les dogmes du temple de Jérusalem. Historiquement, ce sont plutôt les Romains qui ont tué Jésus, bien entendu, sur plainte des grands prêtres. Passons. Et à ce moment-là, Pierre le réprimande. Réprimander Jésus, il faut oser quand même. Enfin bon. Pierre exprime ce que nous ressentons, nous, encore. Ça s'appelle le scandale de la croix. La mort sur la croix échappe à notre entendement. Comment le Fils du Dieu vivant peut-il souffrir cette mort ignominieuse ? Nous espérions toujours, lorsque nous étions enfants, en tout cas moi, peut-être vous pas, je ne sais pas, qu'on me racontait cette histoire quand j'étais tout gamin, que Jésus allait s'en sortir, que Pilate allait réussir à le sauver. Dans Ben-Hur, pas le film avec Heston, le roman, parce que dans le film avec Charlton Heston, cet épisode a été coupé au scénario, mais dans le roman et dans la version muette, donc dans Ben-Hur, on voit Ben-Hur lever un groupe de cavaliers pour tenter de libérer Jésus. Bon, évidemment, il a échoué. Mais nous, aujourd'hui, comme Pierre, comme Ben-Hur, nous enfermons Jésus dans notre dogme, dans notre vision réductrice de ce qu'est Dieu, dans notre espoir de ce qu'est Dieu, de ce qu'est son Fils unique. Nous sommes choqués par le scandale de la croix, parce que nous enfermons Jésus dans notre vision. Nous passons outre le fait que Jésus a aussi annoncé sa résurrection. La croix n'est pas la dernière parole de l'Évangile. C'est ce que Pierre n'a pas compris. D'où l'apostrophe terrible de Jésus. « En arrière de moi, Satan, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Se faire traiter de Satan par Jésus, vous admettrez que ce n'est pas rien, surtout quand on vient de se faire confier les clés du royaume. Ça signifie, tu ne penses pas comme Dieu, tu t'enfermes et tu l'enfermes dans ton dogme, dans ton interprétation. Pierre est victime d'un dogme, en effet. Il enferme Dieu et les rapports de Dieu avec son Fils unique et bien-aimé dans une définition qu'il s'en donne lui-même. La foi libère. Le dogme est réducteur. Ça, c'est l'opposition fondamentale, essentielle, qui échappe à tant de croyants de toutes les religions. Les intégristes, les fondamentalistes tuent au nom de ce qu'ils croient être la foi, alors que ce n'est qu'au nom des dogmes, opinions posées comme indiscutables. Les athées non plus ne comprennent pas la nuance, puisqu'ils condamnent la religion parce qu'ils la confondent avec la dogmatique, avec l'aide d'ailleurs inconsciente de ces fondamentalistes qui prennent la Bible au pied de la lettre. Libérés par la foi, comme Paul l'a rappelé dans le texte de l'Épître aux Romains que j'ai lu, par une grâce qui est donnée par Dieu, mais aussi avec quand même une intervention personnelle, quand même, libérés de l'injonction dogmatique, nous pouvons même nous affranchir aussi du poids des doctrines, non pas des dogmes, des doctrines variables, conjecturelles, et face à ces doctrines, rééquilibrer la pratique, l'action dans le monde, en dehors des dogmes. Répondre à l'appel de l'Évangile, c'est une invitation à s'engager dans l'action concrète, quotidienne. C'est la leçon de Jésus dont je parlais tout à l'heure, l'amour du prochain. Alors, quelle réponse donner à Jésus ? Jésus, ça c'est mon point de vue, c'est l'amour de Dieu qui nous rend vulnérables, car il nous ouvre. Il nous ouvre à la femme cananéenne, aux bons samaritains, qui étaient des païens, je vous le rappelle, aux femmes adultères, aux percepteurs d'impôts, aux soldats qui l'ont cloué sur la croix. Il nous ouvre aux victimes des institutions ecclésiastiques, civiles ou politiques, les étrangers, les délinquants, les criminels, les hérétiques, les femmes, les homosexuels, tous les exclus. Jésus, c'est le point de rencontre entre le divin et l'humain, source d'amour, de plénitude de vie. Amen.